Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes, choisies dans 10 années de Sur les docks. Un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, des Visiliennes. Et aujourd'hui, perdu sur l'île Tromelin, histoire d'une survie invraisemblable. Un documentaire d'Olivier Chomel, réalisé par Nathalie Battus. Bora Bora, Capri, la Guadeloupe, Prochida, Cuba, les Marquises, Ibiza, les Canaries, la Barbade, Mykonos, Calotte, la Sardaigne, Vanuatu, Samoa, Maui, Maurice, Ba, Hawaï, Burano, les Grenadines, la Martinique. On égrène les noms comme des possibilités. On joue avec l'idée et le plus souvent on renonce, trop loin, trop cher, trop compliqué, trop beau pour être vrai. Mais les îles, ça peut aussi être le cauchemar. La roche, le vent et la pluie qui cinglent, à peine âme qui vive, à peine de quoi vivre. Et puis surtout, parfois, on s'y retrouve coincé, contraint et forcé, tragiquement échoué après un naufrage. Alors au début, c'est un cadeau de la Providence, sinon on serait resté au fond de l'eau. Et puis les jours passent, le soleil tape, l'eau se fait rare, on commence à crever de faim, et le temps de réaliser que jamais aucun bateau ne passera par là, eh bien, on est déjà foutu. Aujourd'hui, quatrième volet, faites connaissance avec la riante île Tromelin.
Perdu sur Tromelin, 15 ans d'une survie invraisemblable. Olivier Chomel, Nathalie Battus.
Depuis que la navigation est connue, il n'y a peut-être jamais eu de naufrage plus attendrissant que celui de la frégate Lutile. Et c'est par le coup le plus extraordinaire de la Providence que ceux qui montaient ce vaisseau ont eu le bonheur de trouver leur salut au sein même du désespoir et de la mort. L'histoire ni le roman n'offrent point d'événements plus capables d'intéresser des concitoyens et des hommes.
La navigation maritime jusqu'à la fin du XVIIIe est une navigation très très imprécise, en particulier en longitude. Et donc on se contente d'estimer la route, c'est-à-dire on estime au compas, qui est déjà quelque chose d'un compas magnétique qui n'est pas très stable hein, sur un bateau à voile ou au compas magnétique, on estime la vitesse, on estime la dérive, on estime les courants généraux, et avec ça on dit voilà, j'ai fait ça.
Ça fait beaucoup de sources.
Ça fait beaucoup de domaines d'incertitude.
Bon, donc, quand on est arrivé au petit matin, nous étions une vingtaine de personnes sur le Gallieni. Il fallait déjà transférer ce monde. Le Gallieni était à 2 km du récif de Tromelin. Et le jour se levait à peine. C'est vrai que le Marius Moutet, pendant 2 jours, a tourné autour de Tromelin avant de le trouver. Et il était en bateau avec tout ce qu'il fallait pour la navigation. C'est vrai que beaucoup d'avions manquaient Tromelin parce qu'ils confondaient l'île avec des reflets des nuages. En fait, c'est une petite parenthèse.
La République française a des jardins inattendus. L'État est propriétaire de Clipperton dans le Pacifique, un atoll infesté de crabes rouges et revendiqué par le Mexique, et dans le canal de Mozambique et l'océan Indien, de ce qu'on appelle les îles éparses. Bassas da India, semi-territoire submergé à chaque marée, Juan de Nova, Europa, où les moustiques attaquent chaque jour à 18h37 précise, l'archipel des Glorieuses, dans le nord-ouest de Madagascar, et Tromelin, qui s'appelait avant l'île de Sable, à presque 500 km au nord-est de Madagascar. Les éparses ne sont pas le sujet d'une guerre ignorée, elles sont juste un contentieux international au long cours entre Antananarivo, Port-Louis et Paris, revendiquées qu'elles sont par Madagascar et l'île Maurice.
En fait, ce récif a été découvert accidentellement par un navire français qui s'appelait la Diane et qui était commandé par le capitaine Briand de La Feuillée, qui commandait à l'époque un navire de la Compagnie des Indes orientales. Et c'est dans l'après-midi du 11 août 1722, c'était un mardi, qu'il a aperçu cette terre désertique, désolée. Le capitaine n'a pas éprouvé le besoin de faire une descente à terre. Il a simplement noté sur son carnet de bord qu'il avait découvert cet îlot.
Il n'est pas descendu à terre parce que la manœuvre est excessivement dangereuse.
Oui, en effet, il faut savoir que Tromelin, c'est un volcan qui est en fait vieux de 3 millions d'années, qui a une hauteur de 4000 mètres et qui affleure au niveau de l'océan. Et il y a autour de Tromelin des fonds abrupts de 4000 mètres. Il n'y a pas de baie, de coin pour permettre aux navires de s'y abriter. Et donc tout débarquement est dangereux. On peut comprendre qu'en 1722, le commandant de ce navire, la Jeanne, n'est pas cherché à y débarquer.
Tromelin a été le théâtre d'une tragédie maritime édifiante au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, 4 météorologistes y vivent en permanence, ravitaillés par l'armée de l'air et relayés tous les 30 à 60 jours. Elle est une base météorologique essentielle à l'observation des cyclones féroces de l'océan Indien. Elle y est d'ailleurs sujette en première ligne.
Port Louis, Île-de-France, 16 décembre 1776. Je m'appelle Jean Canet, je suis né le 26 mai 1728 à Bayonne, en France. Je suis retiré à l'Île-de-France après une carrière dans la marine au service de la Compagnie des Indes. J'ai vécu jadis une aventure profondément marquante que les années écoulées depuis avaient presque effacée de ma mémoire. Et juste hier, un événement invraisemblable a tout fait ressurgir. J'ai toujours redouté qu'il survînt. Comme le temps passait, il devenait d'ailleurs de plus en plus impossible. Il est arrivé tout de même. Hier donc, on a donné le baptême à un négrillon de 8 mois qui est désormais un enfant chrétien du nom de Jacques Moïse. Je ne connais pas cet enfant, mais je connais l'enfer dans lequel sa mère a vécu durant plus de 15 années, pour y avoir vécu quelque temps moi-même. Oh, beaucoup moins longtemps qu'elle, j'ai passé 8 semaines sur l'inhospitalière île de Sable, il y a 15 ans, en août et septembre 1761. Nous sommes quelques-uns à Port-Louis à avoir vécu l'effroyable naufrage de la flûte Lutile, commandée pour son dernier voyage par M. Jean de la Fargue, armé à Bayonne, parti du passage en Espagne, et perdu sur cet îlot maudit 8 mois plus tard.
On va s'intéresser à l'une des îles éparses, André Oraison, qui s'appelle Tromelin, qui s'appelait l'île de Sable auparavant. Alors, Tromelin se trouve dans l'océan Indien, André Oraison, j'ai noté les coordonnées géographiques exactes, hein, c'est 15 degrés 53 minutes sud, donc c'est pas très loin de l'équateur, 54 degrés 31 minutes est de Greenwich. C'est tout de même excessivement isolé parce que ça se trouve à 470 km du nord de Madagascar, à 560 km de la Réunion. Et en fait, ça n'est pas du tout le paradis tropical qu'on pourrait imaginer.
Pas du tout. Le récif de Tromelin, d'abord, c'est une des plus petites des 5 îles éparses françaises de la zone sud-ouest de l'océan Indien. Et c'est la seule des 5 qui soit située en dehors du canal de Mozambique. La longueur du récif est de 1700 mètres, sa largeur extrême est de 700 mètres et sa superficie d'environ 1 km carré. L'île est pratiquement plate, elle ne contient ni eau douce, ni arbres. La végétation se limite à des arbres rabougris, des euphorbes. Il n'y a pas pratiquement de filao. Il y a quelques cocotiers qui ont été plantés par les météorologues en 1954. Comme faune, il y a essentiellement des fous, des frégates et surtout des tortues vertes de l'espèce Chelonia midas qui viennent pondre régulièrement.
J'embarquais au passage en Espagne avec 154 officiers et matelots le 17 novembre 1760 à destination de l'île de France. La Compagnie des Indes avait armé 2 flûtes récemment construites, la Dour et l'Utile, qui naviguaient de compagnie. La traversée se faisait selon des routes sensiblement identiques à celles qu'empruntent les navires d'aujourd'hui. À ceci près qu'on prenait des précautions supplémentaires à cause des Anglais qui nous causaient 1000 misères. On relâchait le plus souvent à l'île de Madère, puis au Cap Vert, on passait la ligne équinoxiale, on relâchait encore au Cap de Bonne-Espérance, qu'on atteignait en 12 à 15 semaines, avant d'arriver à l'île de France un mois plus tard.
À bord, les conditions de vie sont assez précaires.
voire désastreuse. Il n'y a pas d'hygiène, la nourriture est plus ou moins de mauvaise qualité parce qu'elle doit pouvoir être conservée, ça ne marche pas toujours. L'eau n'est pas très bonne.
Oui, alors...
Les hommes sont entassés sur des navires qui sont quand même pas bien grands.
Oui, bien sûr. Les navires ne sont pas... Finalement, les hommes vivent dans l'entrepont, c'est-à-dire la partie qui est située entre le pont supérieur et le pont inférieur sous lequel se trouve la cargaison.
Philippe Audrère, historien de la Compagnie des Indes.
Cet entrepont, ça fait à peu près la surface d'un avion de ligne actuel. Et il faut penser qu'il y a quelquefois 150, 200, 250 hommes, même en cas de guerre, n'est-ce pas ? Il y a des soldats qui sont embarqués, qui sont entassés dans l'entrepont, c'est-à-dire un espace pratiquement clos. Certes, il y a des sabords qui permettent d'aérer, dans lequel on trouve non seulement les hamacs dans lesquels sont installés les hommes, mais on trouve aussi des animaux vivants, on trouve une partie du ravitaillement, on trouve des bagages, etc. D'autre part, donc, on reste plus de 6 mois dans cet entrepont. Alors, deuxième difficulté, la nourriture. Oui, la nourriture, on ne sait pas conserver les aliments, ou plutôt, on n'a que très peu d'aliments qu'on puisse conserver. De quels aliments dispose-t-on ? D'abord du pain. Bien sûr, on emmène de la farine, il y a à bord un four à pain, et même un four à pâtisserie, et donc on fait le pain. Le temps ne le permet pas, le temps est trop mauvais, on prend du biscuit, c'est-à-dire du biscuit de mer, c'est-à-dire quelque chose qui est très dur, qui a été cuit plusieurs fois pour se conserver, et encore quelquefois les vers se mettent dedans, on a souvent des récits assez horribles de ces biscuits de mer. Deuxième produit alimentaire, de la viande, alors de la viande salée. Cette viande salée se conserve plus ou moins bien, souvent aussi les papuies. 6 mois de viande salée, évidemment, c'est un régime qui n'est pas très satisfaisant. À défaut du poisson, mais ce n'est pas, on ne pêche pas, on prend du poisson salé, qu'on emmène à bord. Évidemment, il n'y a pas de légumes frais, il y a des haricots, des lentilles, n'est-ce pas, qui peuvent se conserver.
Il y a du vin et de l'alcool aussi.
Et alors, si, d'alcool. Alors, la ration d'alcool est toujours importante. En moyenne, mais c'est un alcool à plus faible degré que le nôtre, en moyenne, on emmène pour une ration de 75 centilitres par homme et par jour. Ce qui est donc tout à fait, ce qui permet de tenir. Et puis, dans les moments difficiles, on emmène aussi une ration d'eau de vie. Et donc, on peut donner un peu d'eau de vie dans les passages difficiles, comme par exemple le passage du Cap de Bonne-Espérance. Voilà. Et puis alors, évidemment, les soins médicaux sont très restreints. C'est bien simple. Écoutez, début 18e siècle, le taux de mortalité parmi les hommes embarqués tourne en moyenne pour toutes les compagnies des Indes autour de 15-17%, ce qui est considérable, n'est-ce pas ? Ce sont des sujets jeunes. Mais on descend dans la seconde moitié du 18e siècle en dessous de 10%. Et progressivement, n'est-ce pas, nous avons une diminution de la mortalité, ce qui est vraiment une conquête médicale tout à fait remarquable.
Le 12 avril 1761, soit 146 jours après avoir quitté l'Europe, nous arrivâmes à l'île de France, éprouvant tous un grand soulagement. Malgré la très longue durée du voyage, nous n'avions perdu que peu d'hommes, et nous avions surtout évité de rencontrer les Anglais, qui étaient souvent embusqués aux abords des îles Mascareigne en ce temps-là, tout au moins lorsque notre flotte royale ne croisait pas elle-même dans les parages. À l'arrivée à l'île de France, nous fûmes premièrement consignés à bord durant 2 jours. Le temps probablement pour l'état-major de décider avec les autorités de l'île de nos occupations futures. Nous débarquâmes la cargaison de l'utile et pûmes ensuite jouir d'une certaine liberté à terre. 2 mois plus tard, vers la fin du mois de juin 1761, j'étais de nouveau sur le navire, prêt comme mes camarades à appareiller pour Madagascar, où nous devions aller chercher du ravitaillement au port de Foul Point, sur la côte est de la grande île, pour pallier la perte de plusieurs bâtiments pris par les Anglais.
Donc les bateaux partent novembre 1760 et arrive donc à l'île de France normalement en avril, je crois. Donc c'est là où se passe le voyage à Madagascar, ce qui est un voyage habituel. Donc il faut savoir que les îles, d'une part l'île de France et d'autre part l'île de Bourbon, survivent en matière alimentaire avec Madagascar. Madagascar fournit le riz, les bœufs et accessoirement donc. À chaque voyage, on demande au bateau de ramener des esclaves.
À Foul Point, où la relâche fut de courte durée, nous remplîmes les caves de notre vaisseau de tout ce qui avait été commandé à notre capitaine par M. Desforges Boucher, gouverneur des îles de France et de Bourbon. La rumeur m'avait rapporté à Port-Louis que ce dernier s'opposait formellement à ce que nous chargions au surplus une certaine quantité d'esclaves malgaches à Foul Point. Les marchandises devaient servir à l'usage exclusif des habitants de l'île de France et des marins qui les transportaient, et en aucun cas à nourrir des nègres.
Jean de Lafargue, qui a le commandement de l'Utile, en fait, tout le début de sa carrière comme officier de la Compagnie des Indes, c'est comme officier sur des navires négriers, parce que la Compagnie des Indes arme des navires négriers qui, pour la traite atlantique, hein, qui vont avec la compagnie de Guinée, vont au Sénégal ou sur en général à Gorée, et puis vont à Saint-Domingue ou à La Réunion. Or, les quatre premiers embarquements qu'il a, il est sur des navires négriers. Donc quand il est dans l'océan Indien, ce n'est pas quelque chose qui lui pose problème. Donc voilà, il embarque ces gens. Donc ça implique que, avant de partir,
Max Guérou,
il est acheté de la contre-valeur des esclaves, parce que les esclaves, ça se troque. Hein. Qu'il s'est arrangé avec des acheteurs potentiels pour qu'il les récupère, et qu'il s'est arrangé également pour les débarquer en fraude.
Il, c'est le capitaine de la Fargue qui commande l'Utile. Parce qu'on a bien l'impression que ce trafic-là, il le fait pour son propre compte, et puis c'est tout.
Ah, de toute évidence, à partir du moment où il est complètement illicite, c'est pour son compte, sauf, bien sûr...
Et ça requiert la complicité de son équipage.
Sauf son équipage et les gens de la compagnie. Il est impensable que des gens de la Compagnie des Indes à l'Île-de-France ne soient pas au courant. Parce que débarquer 150 esclaves sans que ça se sache, c'est pas évident. Alors on a retrouvé les documents un peu plus tardifs sur la manière dont ça se passait. Bon, le bateau va mouiller au lieu de rentrer dans le port principal, il va mouiller dans une baie de l'Île-de-France où tout est arrangé à l'avance et il y a un bateau qui est prévenu par des signaux plus ou moins mystérieux et qui vient à la tombée de la nuit récupérer les esclaves et les dispatcher dans les diverses plantations.
Oui, ce sont des manières de contrebandier, ni plus ni moins.
Tout à fait. D'autant plus, je disais, que sur le plan pratique, le Jean de Lafargue est quelqu'un qui était connaissait tout à fait la manière dont il fallait faire, non seulement pour acheter, mais pour transporter.
De par son expérience
antérieure, oui, d'embarquement sur les navires négriers de la compagnie.
De Lafargue, pendant les manœuvres de transbordement de ces pauvres bougres, paraissait pleinement satisfait, vérifiait la bonne santé de tous les esclaves, comme s'il se fût agi de son bien propre. Ces pauvres nègres et ces pauvres négresses, pris sur les hauts plateaux de la grande île, étaient pour la plupart saisis de panique. La perte de leur liberté, et l'océan qu'ils n'avaient sans doute jamais vu, paraissait leur inspirer une grande terreur. Je n'ai pas directement participé à leur installation à bord de l'Utile, mais je peux dire qu'ils étaient bien plus d'une centaine. Nous prîmes aussi quelques passagers blancs désirant se rendre à l'Île-de-France.
Alors, cette question des esclaves est une question un peu compliquée.
Philippe Audrey.
Il faut d'abord choisir une première chose, c'est que lors de la création de la Compagnie française des Indes en 1664, dans la déclaration, l'édit qui fonde la Compagnie des Indes, il est interdit à la Compagnie des Indes de faire du transfert d'esclaves. Ensuite, progressivement, on a senti le besoin d'amener des esclaves. La pression vient des colons installés au Mascareng, installés l'île Bourbon à l'île de France, qui veulent avoir des esclaves pour cultiver leurs terres. Donc on fait venir des esclaves. Alors, on fait venir ces esclaves d'Afrique, surtout d'Afrique de l'Est. Bien sûr, il en vient quelques-uns d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, etc., où les navires de la Compagnie des Indes font parfois escale, hein, de Gorée. Ils font escale à Gorée, ils prennent parfois des esclaves, mais ils en prennent assez peu, parce que le trajet est trop long. Alors, ces esclaves viennent soit de Madagascar, soit de la côte de l'Afrique orientale. Les colons préfèrent les esclaves de la côte de l'Afrique orientale parce que les esclaves malgaches ont tendance à vouloir rentrer à Madagascar en volant des pirogues et en essayant de gagner Madagascar, qui finalement n'est pas tellement loin. Hein.
Donc
c'est faisable. Oui, c'est faisable. Non, il y a des pirogues hein, qui arrivent à Madagascar. Je dirais que c'est certainement doute pas la majorité, hein, parce que vous imaginez une petite embarcation dans les Alizés, quelquefois ça n'est pas très commode. Hein. Bon, mais enfin, il y a des esclaves malgaches, il y en a, et la femme donc fait du transport d'esclaves. Alors, peut-être que c'est le capitaine, mais aussi sans doute les autres officiers. Hein. Ça fait partie des avantages donnés aux officiers. C'est-à-dire que ils font du trafic d'esclaves pour leur compte. Enfin, ça n'est pas la Compagnie des Indes qui assure ce trafic. Ce sont les officiers qui prennent en charge ce trafic et ensuite qui vendent à des planteurs indirectement. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ça n'est pas autorisé, ça n'est pas strictement interdit, c'est quelque chose entre les deux. Hein. C'est dans la zone grise entre les deux. Hein. Et je ne pense pas qu'il soit le seul à en transporter. Hein. Sans doute que tous les autres officiers sont intéressés dans cette affaire.
En tout cas, aucune question morale ne se pose.
Ah non, aucune question morale ne se pose, mais vous savez, elle ne se pose pas davantage pour les Européens à l'époque. Je dirais qu'elle se pose pour quelques-uns. Bien sûr, elle se pose pour Montesquieu, elle se pose pour Voltaire, elle se pose pour des philosophes, n'est-ce pas? Et elle commence à se poser seulement vraiment dans les années 1780, où on commence vraiment à critiquer l'esclavage. Mais dans les milieux commerciaux, dans les milieux de la Compagnie des Indes, dans les milieux des ports, dans les milieux des colons, on tient à conserver l'esclavage, hein, et on essaie. C'est vraiment un système qui est en place et on ne se pose pas d'interrogation.
Le départ de Foule Pointe vers l'île de France eut lieu le 23 juillet vers 4 heures de l'après-midi. La mer est souvent mauvaise dans ces parages et personne à bord de l'Utile ne s'attendait à une traversée calme. Pour l'heure, la mer présenta rapidement une grosse houle de travers et nous commençâmes à être fort contrariés par les vents qui nous obligèrent à tirer des bords à de nombreuses reprises. Cette situation dura plusieurs jours, après quoi nous trouvâmes du beau temps dans lequel nous pûmes naviguer toute voile dehors et aussi tenter de faire une estimation passable de notre position. La mesure nous indiqua hélas que les vents et les courants nous avaient dangereusement déportés vers le nord, dans une zone où l'on pouvait suspecter l'existence de hauts fonds et de récifs, en particulier un îlot que les deux cartes dont nous disposions plaçaient à des positions sensiblement différentes. Il y eut à ce sujet une dispute assez animée entre le pilote et le capitaine de la Fargue, celui-ci faisant entière confiance à une carte du dépôt de la marine levée en 1740 et traitant celui-là d'ignorant et autre nom d'oiseau fort désobligeant. Certains hommes qui assistaient à la scène gloussaient d'aise parce qu'ils aiment avoir humilié l'un des leurs et qu'ils ne mesuraient pas l'effroyable péril auquel nous n'allions pas tarder à être confrontés. Comme à l'accoutumée en pareil cas, c'est le grade le plus élevé qui a raison. Et nous fîmes route selon les ordres du capitaine, non sans redoubler de vigilance, de nuit comme de jour. Bien malheureusement, c'était l'avis du pilote qui était juste.
Alors, c'est là où le commandant du bateau est blâmable, c'est-à-dire que, comme l'île, on le verra, c'est un refuge, c'est un point de nidification des oiseaux, où il y a des milliers, surtout à l'époque, je pense, il y avait des dizaines de milliers d'oiseaux qui nichaient sur cette île. Dès qu'on s'approche, on rencontre des oiseaux, puisque par exemple les fous de Bassan vont pêcher au large pour leurs petits, ils vont assez loin.
Et ça, donc, ça nous alerte sur la proximité
donc,
du terre.
Donc on sait qu'il y a une île. Alors, si vous arrivez dans une zone où vous avez une même île qui est à deux positions différentes, que vous commencez à voir des oiseaux, en général, la nuit on navigue pas. C'est-à-dire on met en panne et on attend d'y voir clair. Parce que cette île étant tellement petite et tellement basse, on peut très bien être tout près sans la voir. Non. Donc, mais ce qu'il ne fait pas, contre l'avis de son pilote, donc il se bagarre avec son pilote, l'un en tenant pour une carte et l'autre pour l'autre carte, au lieu d'adopter une attitude de prudence, qui est de dire bon ben on va attendre cette nuit, on met en panne et puis on attend le jour pour continuer la route. Il continue en faisant la tête de mule, donc c'est pas une trace qui prend pas vraiment une preuve d'intelligence, mais enfin toujours est-il qu'il se plante dans la nuit sur l'île. Il y a un manque de chance, hein, parce que c'est vraiment un petit, quand même.
Le 31 juillet, au soir, vers 10h, le bâtiment talonna deux fois coup sur coup, puis une troisième, très brutalement. Tous les hommes d'équipage qui dormaient alors furent réveillés en sursaut par cet horrible fracas et se précipitèrent sur le champ à leur poste. Il y eut un court moment de saisissement général, et très vite, comme le navire était secoué de toutes parts et que le sinistre grondement redoublait, une terreur immense gagna l'ensemble de l'équipage. Il faisait nuit noire. Les vigies n'avaient aperçu, bien que la mer fût belle, aucun moutonnement qui eût trahi la présence du récif. Nous acquîmes bien vite la certitude d'avoir touché à un haut fond à peine couvert d'eau, que le vaisseau était perdu, et nous tous avec lui. Des cales montaient les plaintes déchirantes des Noirs, entravés et incapables de tenter quoi que ce fût pour leur salut. Quand soudain une voix cria « Terre !» et je pus voir en effet vers tribord comme une vague ombre à peine élevée sur l'horizon.
Au milieu de ce tumulte et de la nuit, le vaisseau qui souffrait la plus violente fatigue menace de s'entrouvrir. Le gouvernail casse la barre d'arcasse et la barre les baux de derrière. On fait partir le gouvernail. Le fond du bâtiment s'ouvre dans le même instant. On se sauve des soutes. Les malades sont noyés dans leur cadre. On n'a plus devant les yeux que la terreur ou la mort. On veut jeter le canot à la mer, mais les chutes et rechutes du vaisseau rendent tous les efforts inutiles. Tous les travailleurs sont précipités au milieu des débris. Tout est au comble du désespoir. Vers les 3 heures du matin, le mouvement du vaisseau paraît se ralentir. Nouvelle tentative pour mettre le canot à la mer, aussi infructueuse que les premières. Il survient tout à coup une lame qui, par sa chute, enfonce le pont et entraîne tout dans la cale avec les hommes. Alors le vaisseau se divise en 6 principales parties sur lesquelles l'équipage se trouve dispersé au hasard.
Je m'accrochais quelques instants à un débris qui flottait là. Eus le temps de m'apercevoir qu'il ne resterait bientôt plus rien de l'utile et résolu de nager de toutes mes forces vers la terre. Les remous, les vagues et les courants étaient très violents, les roches étaient très coupantes. Mais je parvins par miracle, pantelant, meurtri, plein de désespoir, sur la plage. Quelques autres hommes étaient là déjà, d'autres arrivèrent peu après moi. Nous étions sauvés et contemplions le spectacle d'apocalypse de notre navire déchiqueté par les mâchoires affreuses de l'océan.
L'île est une île volcanique couronnée par du corail. Le fond descend très très vite. Le moment où ça descend très fort, c'est 150 mètres du rivage, pas plus.
Max Guérou.
Et après, ça descend jusqu'à 4000 mètres de partout. Donc, le bateau, lui, de toute manière, il touche très près, hein, puisque c'est son tirant d'eau qui... Donc, et tous les restes que l'on a trouvés sont pas moins de 5 mètres de fond.
Et comme l'océan se brise sur,
oui, alors, il s'échoue à l'endroit où les vagues déferlent. Donc, il va être malmené jusqu'à se disloquer. Et une partie des morceaux du bateau va aller à la côte. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit d'ailleurs des gens qui sont noyés ou même des gens qui nagent, finissent par se retrouver sur le sable en plus ou moins bon état, parce que bon, ils sont roulés sur le corail ou donc ils sont blessés. Mais en gros, c'est à la fois difficile parce que bon, faut comprendre le stress d'un naufrage en pleine nuit sans qu'on sache où on est. Nous, on sait comment le bateau se trouve par rapport à la côte. Il faut savoir que les gens, quand ils sont sur le bateau, ils savent pas où ils sont. Or, certains pensent qu'ils sont sur un caillou qui émerge et qu'il n'y a rien autour. Donc
éventuellement, le récif sur lequel il s'échoue est couvert à marée haute ou des choses comme ça peuvent être envisagées.
Donc c'est qu'au petit matin, qui voient des gens, et qui croient être d'ailleurs des gens extérieurs à leur équipage, qui sont des membres d'équipage qui ont réussi en nageant à aller sur la côte, et ils s'aperçoivent qu'ils sont sur une côte. Donc à ce moment-là, les gens s'organisent, essayent de faire des va-et-vient, c'est-à-dire on met des cordages entre la côte et les débris du bateau pour faire passer les gens qui ne savent pas nager ou qui sont mal en point.
C'est toujours étonnant d'avoir affaire à des marins qui ne savent pas nager.
C'est-à-dire que c'est toujours la même expression. Je veux dire que en cas de naufrage, on souffre moins longtemps. Hein.
Presque tous sont meurtris, mutilés et couverts de contusions. Ce sont plutôt des spectres que des hommes. Le jour succède à une nuit affreuse. Depuis l'instant où l'on était entré dans l'île, on avait presque entièrement perdu l'usage de marcher. On se traînait ou l'on allait que d'une manière chancelante, comme dans une grande ivresse. Le bloc du corail paraissait aussi agité que les débris mêmes qu'on avait quittés. La plupart s'imaginaient être sur une île flottante et pensaient être entraînés à chaque instant au gré des vagues. Les mugissements continuels de la mer causaient des étourdissements effroyables. Tous les objets ne s'offraient que sous des aspects extraordinaires, comme dans un songe où l'imagination s'épouvante elle-même.
Et quoi qu'il en soit, l'équipage de l'utile et les esclaves qui arrivent à échapper du naufrage, une fois qu'ils sont sur cette île qu'ils ne connaissent pas, où pratiquement personne, on peut dire, n'a jamais débarqué, c'est pas pour autant qu'ils sont tirés d'affaire.
Non, pas du tout. Non, là, au contraire, là, il y a... Mais ils réagissent très, très rapidement, c'est-à-dire que l'équipage n'a pas l'air d'ailleurs d'être un équipage d'élite. Hein. Il semble qu'il y ait de gros problèmes de discipline et pour les faire marcher, pour les faire faire les choses. Mais enfin, peu importe. Le commandant est complètement hors du circuit. L'écrivain du bord ne donne pas d'explication. Bon, il dit qu'il est indisposé, mais... Et c'est le second, en fait, qui prend les choses en main. Donc, le Castellan du Vernet, qui, bien qu'étant blessé... psychologiquement pas en bon état pour avoir vu son frère se noyer sous ses yeux, qui prend en main la situation. Donc on construit des campements avec des voiles qu'on récupère sur le bateau, hein, les campements séparés pour l'équipage et les malgaches, et on envoie une équipe avec un maître canonnier et des outils qu'on a récupérés sur le bateau pour creuser des puits, parce que c'est une constante des naufrages sur les atolls, c'est que quand on creuse le corail ou le sable à une certaine distance de l'eau, on trouve toujours de l'eau filtrée par le corail, qui est saumâtre, pas très clair, mais qui est buvable. Là. Donc, ils font un premier puits, donc je pense le premier jour, et ils ne trouvent pas d'eau. Ils en font un second intelligemment. On l'a pas trouvé. D'ailleurs, on l'a cherché beaucoup, mais on l'a pas trouvé dans la zone dépressionnaire de l'île. Donc là où je pense quand il pleut, l'eau s'infiltre. Et ils trouvent, mais assez profond, hein, presque 4 ou 5 mètres. Et c'est pas creuser 4 ou 5 mètres dans le corail, c'est pas très très simple. Ils mettent 3 jours à trouver de l'eau. Donc à ce moment-là, ils sont sauvés en fait.
Castellan du Vernet organisait le sauvetage de ce qui pouvait encore être sauvé de la carcasse. Par la force qu'il nous communiquait, nous rapportâmes à terre de la farine, du vin rouge, de l'eau de vie, du lard, de la graisse, toutes sortes d'autres produits indispensables, des cordages, les voiles du navire, des armes, du bois, des vivres, des outils, mille choses nécessaires. Le charpentier du bord ayant maintes fois prouvé son incompétence, l'écrivain avait constaté à son sujet qu'il ne savait même pas aligner une pièce de bois, ce fut encore Castellan du Vernet, le second, qui se chargea de tracer les plans d'un bâtiment de fortune, afin d'au moins tenter de nous enfuir de l'île. L'entreprise était malaisée. Selon ses calculs, il fallait, pour transporter tous les naufragés, pouvoir donner au moins 45 pieds de quille sur 15 de face. Et nous n'étions pas certains de pouvoir fournir tout le bois requis. Ensuite, le bateau achevé, il faudrait réussir à le mettre à la mer, passer les récifs sans le briser, et naviguer plus de 100 lieues sur l'océan. La discipline des hommes cédait parfois devant l'adversité, et certains tentèrent de s'approprier le bien commun. Il fallut les menaces les plus graves pour qu'enfin ces fous comprissent qu'ils mourraient ou qu'ils seraient sauvés, comme nous tous, que nos destins n'étaient qu'un seul destin.
Les hommes qui sont à bord, Philippe Audrère, des navires de la Compagnie des Indes, ne sont pas forcément tous de la plus parfaite honnêteté, de la plus grande moralité. Et ça se bat beaucoup, ça s'enivre évidemment, les eaux de vie sont peut-être pas non plus de la meilleure qualité, je sais pas. Mais bon, des événements tragiques peuvent arriver, oui. Juste du fait de la promiscuité peut-être, ou enfin de cette sociologie un peu spéciale qui règne à bord.
Oui, alors oui, des événements tragiques se produisent.
Des officiers qui ont tout pouvoir, le capitaine.
Effectivement, le capitaine est seul maître après Dieu, selon la formule habituelle. Oui, effectivement, les officiers ont tout pouvoir. Oui, il y a je dirais que la situation est particulièrement tendue lorsqu'il y a à bord à la fois des matelots et des soldats. Et il y a des bagarres continuelles entre matelots et soldats. Là, vraiment, et puis alors, en plus, ils sont vraiment très entassés, n'est-ce pas? Mais il y a toujours, il y a effectivement des matelots qui ont un comportement qui met en danger d'ailleurs le voyage, hein, quelquefois, n'est-ce pas, et qui ne font pas qui ne respectent pas leurs obligations professionnelles en quelque sorte. Oui, effectivement, il y a des difficultés. Certes, c'est une vie qui est très dure, hein. Enfin, elle est très dure sur tous les navires à l'époque, hein.
Par exemple, après le naufrage de l'Utile, une fois que à peu près 120 marins européens se sont sauvés sur cet îlot perdu, certains, quelques mauvais éléments, ont tenté de s'approprier des vivres qui avaient été sauvés du navire. Et il semblerait que celui qui avait pris les responsabilités à ce moment-là ait fait planer la menace de peine de mort pour ce genre d'agissement.
Oui.
Ça peut aller jusque-là.
Ah, ça peut aller jusque-là, tout à fait, effectivement, surtout dans une circonstance comme celle-là. Oui. Alors, bien sûr, après, il y a une instruction, n'est-ce pas? Quand on prend des sanctions comme celle-là, il y a une instruction, hein, et l'affaire est jugée à nouveau, elle va devant le Conseil du Roi.
Une fois à terre,
oui, une fois au retour. Donc, il y a une enquête, une instruction, on demande ce qui s'est passé, mais dans ce cas, le capitaine, s'il peut justifier qu'il y a eu une révolte, peut très bien et tout à fait n'est pas sanctionné, hein, c'est justifié tout à fait, hein. Ça, les ordonnances sont très précises sur ce point, surtout dans une circonstance comme celle-là, hein, où il faut absolument une unité et une discipline sans faille.
Le 9 août, un événement survint qui nous mit tous dans un émoi considérable. À 2h de l'après-midi, nous vîmes une embarcation à 2 mâts au large de l'île. Nous hissâmes des pavillons, fîmes le plus grand feu possible, brûlâmes même 2 barils de poudre dont la lumière devait être visible à 2 lieues, mais rien n'y fit. Le bâtiment vira de bord pour éviter l'île et reprendre la route des Indes, sans nous rendre aucun signe. Nous avait-il vu? Ne voulait-il pas risquer un débarquement dangereux? Allait-il chercher de l'aide pour revenir nous secourir? Toutes ces questions nous affectèrent tous durablement. Et les jours qui suivirent cet espoir inattendu furent emplis de doutes. Mais bien vite, la seule perspective qui nous fut offerte, la fuite, nous redonna de l'assurance. La construction du radeau s'achevait. Il lui fut donné le nom de La Providence, et le père Boré, l'aumônier de l'Utile, le baptisa solennellement. Il y a là de son tédéum, bien entendu. Il ne mesurait malheureusement que 33 pieds de quille au lieu des 45 requis. Les nègres constataient l'avancement des travaux avec beaucoup plus d'inquiétude encore que nous autres. Je crois qu'à la fois l'idée de monter sur cette barcasse les épouvantait grandement et qu'ils percevaient indistinctement le sort funeste que nous allions leur réserver. L'angoisse se lisait clairement sur leur visage lorsqu'il fallut leur faire comprendre et admettre que malheureusement, par manque de matériaux, le radeau pouvait embarquer tout juste les 122 blancs que nous étions, mais qu'une fois tous montés à bord, il n'y aurait plus la moindre place pour aucun d'entre eux. Ils entendirent la promesse qui leur fut faite que nous reviendrions les chercher dès que possible, mais je me souviens qu'ils ne feignirent même pas d'y croire. Leur abattement était pitoyable à cette nouvelle, et il était évident que nous ne leur inspirions pas d'autre sentiment qu'une haine inextinguible.
La raison pour laquelle ils laissent les esclaves, qu'ils donnent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment de bois sur l'épave pour construire à la longueur à laquelle ils voulaient construire à l'origine.
Comme par hasard, Max Guérou, l'intégralité des marins français tient sur l'embarcation de fortune qu'ils ont réussi à construire sur l'île de Sable,
ouais.
Mais aucun malgache.
Ah oui, mais ça, c'est la présence de l'esclavage ou de l'idée de l'autre dans cette histoire, c'est ça. C'est-à-dire que personne ne se pose de questions, de toute manière. Bon, c'est normal, ils sont les esclaves, ils vont rester là. Alors, ce qui est curieux, c'est que on s'aperçoit que c'est tellement dans les mœurs qu'il y a même pas, ça fait même pas débat. Je veux dire que dans le récit de l'écrivain du bord, il n'y a pas débat.
Il y a seulement pas d'état d'âme en tout cas.
Oh, il y a une vague phrase qui est très très curieuse, qui est une vague phrase parce qu'il semble bien que les gens qui ont le plus aidé à la construction du bateau, ce soit les malgaches, plus que les marins qui étaient de mauvais garnements. Et il a dit on est obligé de laisser ces pauvres gens qui nous ont tellement aidés. Ah, mais il faut savoir que le même personnage, quand il décrit le naufrage, je vais passer sur ce détail, mais à un moment donné, c'est le premier de l'état-major à se jeter à l'eau pour essayer de regagner la plage. Et il n'a pas de chance, au moment où il se jette à l'eau, il y a une déferlante qui arrive et il repart avec le ressac au large. Donc il trouve un morceau de bois qui flotte et tant bien que mal, il réussit à essayer de nager vers là. Et à ce moment-là, il y a un malgache qui s'approche. Il dit, il est en train de se noyer. Il lui dit, je lui donnais deux bons coups de pied qui lui firent lâcher prise. Mais en toute ingénuité, on voit ça, parce qu'il n'a pas de remords à écrire ça, il écrit ça. Genre. Et arrive un matelot avec qui il partage son morceau de bois.
Est-ce que vous pensez, André Oraison, que la promesse faite aux esclaves malgaches laissés sur l'île de Sable, est-ce qu'elle a été énoncée de manière sincère, disons?
Oui, je pense que oui, parce que les Blancs qui ont construit le radeau ont laissé de toute façon aux Noirs des vivres pour environ 3 mois, ainsi que des moyens de survivre, notamment le feu pour faire cuire les aliments, pour etc. Voyez. Par ailleurs, ils pouvaient aussi penser que les rescapés pourraient être sauvés rapidement, parce que, vous savez, le naufrage a eu lieu le 31 juillet 1761, c'est-à-dire à l'époque des Alizés. Là, le radeau qui les transportait a pu atteindre très rapidement, au bout de 4 jours, full point à Madagascar. Et donc, ils ont dû alerter les autorités locales. Mais malheureusement, comme le récif était mal indiqué encore sur les cartes, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà pourquoi les naufragés ont dû attendre une quinzaine d'années sur le récif sur l'île de Sable. Et ils ont donc cherché à survivre. Voilà le grand problème qui a été le leur pendant 15 ans. Et ce n'est qu'au bout d'une quatrième tentative que... Enfin, la France a pu récupérer les naufragés de 1761 lorsque le chevalier de Tromelin a débarqué un canot le 29 novembre 1776 il a pu, par très beau temps, envoyer donc un canot de sauvetage pour récupérer les survivants. Sur la soixantaine de naufragés de 1761, il ne restait plus effectivement que 7 femmes et un bébé de 8 mois qui ont été aussitôt rapatriés à la colonie de l'île Maurice. Et ils ont été d'ailleurs à cet égard affranchis et pensionnés par la colonie jusqu'à leur mort. Voilà l'histoire tragique des naufragés de l'Util de 1761.
Après avoir soigneusement déterminé le moins mauvais endroit où prendre la mer, nous mîmes notre embarcation à l'eau, ce qui demanda beaucoup d'un travail pénible à tous les hommes, le 27 septembre à 5 heures du soir. C'était 8 semaines après l'effroyable naufrage auquel nous avions miraculeusement réchappé. 122 hommes se rangèrent à bord, comme des sardines. Nous dressâmes le grand mât à bascule, nous mîmes à la voile, et la Providence passa la barrière de récif, présentant correctement sa proue aux lames qui sont si dangereuses à cet endroit. Tout l'équipage ne fut plus qu'un grand cri d'allégresse. Le bateau de Castellan du Vernet était admirablement conçu. La mer était souvent grosse, certes, mais le bâtiment s'en jouait fort bien. Assurément, une bonne étoile s'assurait de notre salut. Nous perdîmes un seul homme en route. Et 4 jours après avoir quitté victorieusement l'île de Sable, le 1er octobre 1761, à 9 heures du soir, nous entrions dans le port de Foulepointe. Le chef d'escadre, M. de l'Aiguille, entendit dans une grande stupéfaction le récit de notre naufrage et de notre sauvetage que lui fit Castellan, notre glorieux bienfaiteur.
C'est assez miraculeux qu'ils parviennent à quitter l'île.
Oui, alors, bon, c'est quand même des gens... On est dans une époque où les gens ont une capacité de se débrouiller seuls et de faire les choses seuls. Moi qui m'a toujours stupéfié.
En même temps, quand les histoires sont racontées, c'est que les gens ont eu au moins un petit peu de chance.
Oui, c'est ça. Oui. On connaît que les histoires qui ont une fin heureuse.
La perte du navire est connue quand ils arrivent à Foulepointe.
Quand ils arrivent à Foulepointe, ils ont la chance de trouver une petite escadre qui est en train de rentrer en France, qui partira le lendemain d'ailleurs, qui a été guerroyée là aux Indes. Donc ils sont réconfortés, habillés. Et à ce moment-là, le second prend une embarcation. On leur indique qu'au nord, dans la baie d'Antongil, qui est quand même un peu loin au nord, il y a un bateau de la Compagnie des Indes. Donc lui prend une embarcation locale et va prévenir le bateau qui est au nord, qui viendra les rechercher 3 semaines, un mois après. Et ils repartiront, donc après un mois après être retournés à Foulepointe, ils repartiront vers l'île de France. Et là, il leur faudra encore un bon mois de navigation. Et pendant ce mois de navigation, et là c'est le côté terrible de la côte de Malgache, qui est une côte... S'ils y achètent du riz, c'est que c'est une côte marécageuse. La côte malgache, donc la côte nord-est, est très dangereuse pour les Européens à cause justement des fièvres. D'ailleurs, on l'appelait le cimetière des Français. Donc, de la Fargue, dont on n'a pas beaucoup parlé pendant toute la période de présence sur l'île, puisque je vous ai dit qu'il était dit indisposé, meurt en vue de l'île Bourbon, donc de la Réunion, peu de temps avant d'arriver à l'île de France. D'ailleurs, était en bonne santé, il aurait été reçu, je pense, d'une manière très brutale à son arrivée. Il y a une phrase terrible du gouverneur à propos de lui. Hein. J'ai trouvé donc la mention du retour du bateau de la Compagnie des Indes qui ramène les rescapés. Et il dit « Monsieur de la Fargue est mort, virgule, il a bien fait, point ».
Débarquant à Port-Louis avec la charogne du capitaine Lafargue, nous revenions à une manière de civilisation, après avoir vécu aux franges de l'humanité et de la vie. Chacun d'entre nous restait hanté par les images effroyables des périls que nous avions vaincus. Je fus hébergé par un notable de Port-Louis, homme loyal, lui expliquai grossièrement l'aventure que je venais de vivre et sollicitai de sa part la faveur d'un calme absolu pour me rétablir. Ensuite seulement, je délibérai avec lui de l'influence que nous pourrions avoir sur le sort des infortunés restés sur l'île de Sable. Il avait su de son côté que le gouverneur des Forges Boucher avait manifesté une opposition formelle à leur sauvetage, sous prétexte que l'opération était dangereuse, autant parce que les Anglais manifestaient de l'hostilité en ces temps-là que parce que l'abordage à l'île de Sable était très hasardeux. Tout de même, nous avions débarqué, nous, sur l'île de Sable. Nous en étions partis. La chose était possible, pour peu qu'on fût un excellent marin et qu'on bénéficiât d'une bonne fortune. La troisième et seule vraie raison était que cet homme se souciait comme d'une guigne du sort de 60 nègres perdus là-bas. J'usais des relations que j'avais sur l'île de France pour tenter d'approcher le gouverneur, mais je ne suis qu'un pauvre bougre, et monsieur le gouverneur avait beaucoup d'ouvrage. Je m'embarquai pour l'Europe, espérant un jour ou l'autre chasser de mon esprit l'image lugubre de ces 60 esclaves, enlevés à leur montagne par un contrebandier officiel et abandonnés à jamais sur un îlot inhabitable d'à peine 3/4 de lieue de Tours. Le 29 novembre dernier, si j'en crois les récits qui circulent sur l'île de France, le chevalier de Tromelin parvint à faire atterrir à l'île de Sable une chaloupe où ont été embarquées vers la corvette du roi qu'il commande 7 femmes malgaches, retenues là depuis le 1er août 1761, et l'enfant de l'une d'elles, celui qui se nomme Jacques Moïse. Tromelin, de retour à l'île de France, a remis les 7 négresses et l'enfant aux autorités. Le chevalier de Tromelin est un grand homme, pour avoir sauvé enfin les derniers infortunés de notre naufrage. Castellan en est un autre, pour nous avoir sauvés. Leurs 2 portraits ornent ma modeste maison, où je souhaite qu'on me laisse en paix. Chaque année, au 1er août, anniversaire de notre naufrage, j'abattrai un cormoran, je le rôtirai et je le mangerai. Un cormoran ou un oiseau de mer d'une espèce qui vit à l'île de Sable. C'est très mauvais, les oiseaux de mer. Je penserai à ces femmes et à ces hommes qui, pendant 15 ans, ne se sont nourris que de cette chair puante. Jean Canet, à Port-Louis de l'île de France, le 16 décembre 1776.
Au bout de 15 ans, ça fait, on peut se demander comment ça s'est passé. Et en fait, cette histoire est assez également mouvementée. Donc, à un moment donné, il doit y avoir quelqu'un qui passe à côté de l'île, qui ne peut pas aborder. L'île était quasiment inabordable la plupart du temps, et qui rentre en disant il y a du monde sur l'île. Bon. À ce moment-là, on envoie. C'est plus la même administration. C'est 76, c'est l'administration royale. Je ne sais pas si c'est à ça que ça tient. En tous les cas. Presque aussitôt, on met en place, on décide d'aller essayer de sauver ces gens, d'aller voir qui sont ces gens et de les sauver. Et alors j'ai retrouvé trace du premier bateau, qui est un petit cotre qui s'appelle la Sauterelle, qui va donc sur l'île et qui met à l'eau une embarcation avec 2 marins pour aller à terre. Et à ce moment-là, comme il se doit, l'embarcation arrive sur le corail et boum, elle est explosée. L'un des marins qui nage pour probablement mieux que l'autre, il y en a quand même qui nagent, rentre à la nage sur son bateau, au moment où le corail coupe le câble de l'ancre et que le bateau part à la dérive, et l'autre se retrouve avec nos naufragés sur l'île. On envoie par la suite 2 autres bateaux, dont je n'ai pas retrouvé le nom, ni le moment où ils ont essayé d'aborder. Ils n'arriveront pas à aborder.
Pour les mêmes raisons, toujours.
Oui, toujours, la mer est trop mauvaise, on ne peut pas aborder. Et c'est seulement le 4e bateau, qui est un bateau de la Marine Royale, qui est une corvette qui s'appelle la Dauphine, qui est commandée par un chevalier de Tromelin, qui lui, astucieusement, a emmené une pirogue et met à l'eau un officier et un ou deux matelots et qui réussissent à aborder et à récupérer les gens qui restent, c'est-à-dire c'est 7 femmes et c'est ce bébé de 8 mois. Entre-temps, donc, notre matelot avait réussi à convaincre les derniers hommes présents sur l'île de construire un radeau de nouveau avec les débris de l'utile qui sont toujours là, parce que c'est quand même une...
Il en restait de moins en moins.
Oui, mais c'est gros. Hein. Au milieu du 19e, il restera encore des débris du bateau. Donc. Et ils construisent ce radeau et ils partent, donc, le matelot en question, 3 hommes et 3 femmes. Mais à ce moment-là, ils n'ont plus de voile, ils n'ont plus rien. Donc les voiles sont faites en plumes d'oiseaux tressés, le gréement, les cordages également avec des plumes d'oiseaux tressés. Et ils partent dans ces conditions et, de toute évidence, se perdent en mer. Ce n'est pas le premier radeau qui part, puisque les femmes qui vont être récupérées disent que 2 ou 3 ans après qu'on les ait laissées, 18 d'entre eux construisent un radeau et partent. Sans qu'on ait plus de nouvelles d'eux non plus. Bon, voilà. Donc voilà toute l'histoire des rescapés. Donc avec cette histoire étrange, donc de ce matelot qui se retrouve avec
piégé
avec les naufragés, qui dans son impatience de se sauver se manque à 4 mois près en fait.
Philippe Audrère, à votre avis, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles on décide de ne pas aller rechercher les esclaves abandonnés à l'île de Sable en 1761, et pourquoi on le fait? En 1775, quelques tentatives et une tentative fructueuse en 76.
Oui, alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu un changement d'administration. Et ça a été catastrophique, si vous voulez, en ce sens que les deux administrations ne se sont pas, se sont mal succédées l'une l'autre. Hein. Il y a eu l'administration de la Compagnie des Indes, puis on est passé à l'administration du roi. En même temps, ça coïncide avec la fin de la guerre de 7 ans, qui est absolument catastrophique pour les Français dans l'océan Indien. Ils sont vaincus, ils sont battus sur tous les fronts, n'est-ce pas ? Ils se trouvent vraiment dans une situation difficile. Deuxième point, on a essayé effectivement à plusieurs reprises d'aller les chercher. Hein. On a organisé plusieurs voyages.
Mais très tard.
Très tard, oui. Ben c'est l'administration royale qui a pris en charge ça. Et
on peut parler de mauvaise volonté quand même un petit peu.
Peut-être mauvaise volonté, peut-être, oui. Je dirais que cette mauvaise volonté, elle vient d'abord d'une administration qui est obligée de parer à des quantités de difficultés de part et d'autre, et pour lequel c'est une question secondaire. Oui, c'est vrai, il y a une mauvaise, disons, peut-être un oubli de cette question. Enfin, c'est une question secondaire, donc on la laisse de côté. Tant pis, n'est-ce pas, hein, ils sont sur leur île. Donc vraiment, non, c'est un comportement qui est tout à fait... extraordinaire, enfin, de laisser ces malheureux esclaves, n'est-ce pas, abandonnés sur leur île, c'est vraiment un comportement extraordinaire, vraiment, un peu inqualifiable, si vous voulez, de la part de l'administration.
L'expédition Esclaves oubliés de Max Guérou a permis d'extraire du corail et de la mer quantité d'objets émouvants laissés par les naufragés de l'Utile. Des bols de cuivre en particulier, maintes fois rapiécés, car les matières premières prélevées sur l'épave du navire étaient très rares. Beaucoup de mystères subsistent pourtant sur l'existence des esclaves malgaches abandonnés sur l'île de Sable en 1761. Marc Gérard a fréquenté la base météorologique de Tromelin dans les années 60 au temps des pionniers. L'infortune de l'Utile était connue. Certains vestiges étaient alors plus visibles qu'aujourd'hui, mais on évoquait peu cette terrible histoire. L'îlot perdu reste comme hanté par les mânes des esclaves du capitaine de la Fargue. Marc Gérard.
On était là, on avait fini de déjeuner à midi, et on regardait la mer, il y avait des grains qui passaient sans arrêt, et tout d'un coup, on voit en face de nous, venant directement vers la plage, un gros bateau, un bateau de cargo, qui arrive et qui, manifestement, a vu l'île à peu près en même temps que nous l'avons vu, et qui a mis sa barre à droite toute, et puis qui est venu allonger la plage comme ça. Heureusement qu'il y a des fonds qui sont assez grands, très près de l'île. Hein. On tombe rapidement dans les 10 mètres de fond là. Eh bien, est passé, on voyait les gens qui étaient d'abord, les marins qui galopaient de partout, parce qu'eux aussi, ils s'affolaient. Il devait y avoir des tas d'ordres contradictoires qui ont été donnés à ce moment-là. Ça, c'était un dimanche.
Ça veut dire, Marc Gérard, que même au XXe siècle, Tromelin reste un endroit dangereux.
C'est pas un endroit pour des touristes, ça c'est sûr. Si vous mettez des touristes là-bas, vous avez un mort tous les 8 jours. Hein, non, mais c'est vrai. Mm-hmm. Il faut faire très attention dans ces affaires-là. Parce qu'on a vu Tromelin dans des phases vraiment tristes. C'est après l'après-cyclone à Tromelin. Tout est sablé, il n'y a plus une trace de peinture, tout est gris. Les fous de bassin, même les frégates, jonchent le sol, l'île pue la charogne. Alors j'ai vu une chose qui était consolante dans la puissance de récupération de la nature. Les fous qui ne pondaient qu'un œuf à la fois, tout d'un coup, se sont mis à prendre 2 et 3 œufs, et ils ont fait ça pendant 2 ou 3 ans, jusqu'à ce que la colonie
soit reconstituée.
Ça, ça a été pour moi un sujet d'ébahissement et d'admiration. Voilà. Ces hommes ne sont pas aussi sages que les fous.
Perdu sur Tromelin, 15 ans d'une survie invraisemblable. Avec Max Guérou, officier de marine et archéologue, animateur du groupement de recherche en archéologie navale, initiateur de l'expédition Esclaves oubliés. Marc Gérard, ancien ingénieur météo, Philippe Audrère, spécialiste de la Compagnie des Indes, et André Oraison, juriste. Texte historique lu par Luc Ponette, texte imaginaire lu par Laurent Lederer. Remerciements aux Terres australes et antarctiques françaises, à Météo France, aux Archives nationales, au Musée de la Marine à Paris, au Service historique de la Marine, à Vincennes et à Lorient. Bibliographie sur franceculture.com, avec notamment les publications de Max Guérou et de Philippe Audrère.
attachée de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet, prise de son François Mazzoni à Saint-Denis de la Réunion pour RFO, et pour Radio France, Claude Courteau, Simone Ronget, Fabienne Bello et Olivier Berotte. Mixage, Claire Levasseur. Sur les docks, Nathalie Battus, Olivier Chaumel.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, podcast. Pour le radeau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire.